Je voudrais lire un passage dans Actes chapitre 22. Actes chapitre 22, qui est l'un des trois passages dans les Actes qui parle de la conversion de l'apôtre Paul. On a le récit au chapitre 9 et deux fois le témoignage de Paul. Et ça, c'est la première fois qu'il donne son témoignage devant les Juifs avant d'être amené dans la garnison, où il devait être interrogé. Il dit donc au acte 22, verset 1er, frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur adressait la parole en hébraïque, le calme devint plus grand encore. Et Paul dit, moi je suis juif, né à Tars, en Cilicie. Mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et éduqué au pied de Gamaliel pour suivre exactement la loi de nos pères. J'ai été plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette voie, liant et mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me rendais afin de lier ceux qui s'y trouvaient et les amener à Jérusalem pour les faire punir. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombai par terre et j'entendis une voix qui me disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ? » Et il me répondit, « Seigneur, je prends ça dans le sens de monsieur, parce qu'il sait vraiment que c'est Jésus-Christ, et Jésus-Christ, à ce moment-là, n'était pas son Seigneur. » Non, je prends ça dans le sens général du terme. Les plus calés parmi nous vont me dire après. Mais, qui es-tu? Et il me dit, moi je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Alors, Paul persécutait l'Église. Et puisque l'Église est le corps de Christ, il persécutait Jésus. Ceux qui étaient avec moi virent la lumière, mais n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Alors je dis, que ferai-je, Seigneur? Peut-être que là, Seigneur veut dire autre chose. Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas et on te dira ce qu'il t'est ordonné de faire. Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me conduisirent par la main et j'arrivai à Damas. Or, un certain Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs de Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit, « Saul, mon frère, recouvre la vue. À l'heure même, je recouvrai la vue et je le vis. » Il dit, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu seras son témoin devant tous les hommes de ce que tu as vu et entendu. » J'arrête la lecture là et je vous invite à prier de nouveau. Seigneur, nous voici devant l'un des passages clés du Nouveau Testament et surtout de la vie de Paul, Saul devenu Paul. Et je te prie, Seigneur, vraiment que tu m'aides en exposant cette parole que tu m'as donnée aujourd'hui à être rempli de ton esprit. Seigneur, tu sais que chaque fois que je me lève pour apporter ta parole, je suis conscient de la responsabilité presque écrasante qui m'incombe pour annoncer cette parole avec justesse, avec intelligence, mais aussi de pouvoir la communiquer pour que nous puissions tous comprendre. Mais pour cela, Seigneur, je demande que ton esprit remplisse chacun de nous ce matin, parce que nous sommes tous différents Et nous allons tous recevoir cette parole d'une façon un peu différente que notre voisin. Et je prie, Seigneur, afin que ton esprit puisse parler, mais qu'il n'y ait en moi aucun obstacle à l'annonce de cette parole que tu veux nous donner aujourd'hui. Et je te bénirai au nom du Seigneur Jésus. Amen. Saul avait une mission, celle d'aller à Damas et d'arrêter tous ceux qui s'étaient écartés de la vérité. Sous-entendu, la vérité, selon Paul, Saul, à ce moment-là, et les chefs juifs. Aux yeux de plusieurs, y compris des gens très religieux et croyants, c'était une mission noble et importante. Même nécessaire, on pourrait le dire. Saul se disait en lui-même, « C'est cela que le Seigneur veut que je fasse pour lui. » Il en était convaincu. C'est ça la volonté de Dieu pour moi. Mais quelque chose arrive avant son arrivée à Damas. Et nous l'avons lu ce matin. Et au lieu d'arrêter les chrétiens, c'est Saul qui avait été arrêté par le Seigneur lui-même. Et Saul pose deux questions dans ce passage. Il dit, « Qui es-tu, Seigneur ?» C'est évident qu'il ne sait pas qui est cette personne qui l'interpelle de cette lumière éblouissante. « Qui es-tu ?» Et la deuxième question, « Que ferai-je, Seigneur ?» Ou on peut dire, « Que veux-tu que je fasse, Seigneur ?» D'accord, tu m'as arrêté. Alors, tu es celui que je persécute à travers la persécution des chrétiens. Que veux-tu que je fasse? Dans sa grâce, Dieu lui a répondu. Et Saul, devenu Paul, était un instrument dans les mains de Dieu pour faire une œuvre incroyable pour le Seigneur qui dure jusqu'à nos jours. Nous avons dans notre Bible un certain nombre de lettres écrites par Paul que nous utilisons souvent dans notre enseignement. Le ministère de Paul continue jusqu'à nos jours de façon incroyable. Seigneur, que veux-tu que je fasse? La question est aussi actuelle aujourd'hui que pour Paul il y a près de 2000 ans. Et quel que soit votre âge, ici nous avons des personnes, je pense, qui vont à partir de l'âge ado jusqu'à un âge, on appelle ça maintenant le quatrième âge, je ne sais pas si je suis là ou pas, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une entrée officielle dans le quatrième âge? Je ne sais pas, bon, mais... bon, André et moi sommes nés la même année, n'est-ce pas? Bon, mais enfin, qu'est-ce que nous sommes? Bon, voilà. Mais... cette question s'applique à nous tous aujourd'hui. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Cette question est d'actualité et s'applique à chacun de nous ce matin. Je me demande si vous vous posez cette question régulièrement et sincèrement au Seigneur. Quand j'avais 9 ans, j'ai répondu à l'appel du Seigneur pour être missionnaire. Mais pendant 10 ans, je n'ai plus jamais poser la question à Dieu, « Que veux-tu que je fasse ?» Et arrivé vers l'âge de 18-19 ans, je détestais l'idée d'être missionnaire. Je ne voulais pas aller à l'étranger, j'étais aux États-Unis à l'époque, bien sûr, et je ne voulais pas aller à l'étranger et servir le Seigneur. Et pourquoi? Parce que je ne posais pas régulièrement la question à Dieu, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Pour moi, j'avais dit oui, un point c'est tout, je vais en mission. Et je ne parlais plus au Seigneur de sa vocation dans ma vie. Et je me suis trompé parce que la vocation n'est pas une chose figée, mais c'est une chose dynamique, l'appel de Dieu dans notre vie. Et c'est la raison pour laquelle il y a tant de chrétiens qui sont sclérosés dans leur vie pour le Seigneur, qui se sont retirés du service pour le Seigneur, parce que cet appel n'est plus dynamique et n'est pas en train de demander à Dieu sincèrement, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Est-ce que vous vous posez cette question régulièrement et sincèrement au Seigneur? Car il nous fait le point, il faut faire le point avec Dieu de temps en temps. Quel est l'appel que le Seigneur vous adresse à ce moment de votre vie, jeune, moins jeune, âge adulte, âge un peu avancé? Est-ce que vous vous posez cette question? Vous savez, je me pose la question particulièrement depuis la retraite. Arrivé vers 65 ans, j'ai dit, oh là là, je vais arriver à la retraite. Bon, la mission avec laquelle nous travaillons, bon, ben, en principe, on prenait la retraite à 65 ans. Et je dis, oh là là, vous savez la question qui me tracassait? Et j'ai honte de le dire. J'ai dit, est-ce que les gens auront toujours besoin de moi? Et j'ai été tellement arrêté par cette pensée, j'ai dit, mais tiens, mon image de moi-même dépend de ce que je fais. Moi, j'aurais dit tout de suite, ah non, non, mon image de moi-même, c'est l'image que le Seigneur me donne. Je suis un enfant de Dieu, etc., etc. Vous savez, le jargon évangélique fait, bon, non, mais c'est vrai, c'est pas du jargon, c'est vrai. Mais pour moi, c'est devenu un peu ça. Et là, j'étais vraiment écrasé devant le Seigneur. Parce que je ne voulais pas que ma conception de moi-même, mon image de moi-même, disons, dépendait de ce que je faisais, mais de ce que j'étais, ce que je suis en Christ. C'est ça mon identité. Et j'ai dû régler ça avec le Seigneur. Et vous savez, le Seigneur est comme ça avec moi, je ne sais pas pour vous. Mais dès que j'avais réglé la question avec le Seigneur, c'était un an avant la retraite, Étienne Gros-Renaud m'a appelé et a dit, David, on va former, nous, on va avoir une nouvelle direction dans l'association, on va avoir des visiteurs des églises. Et on s'est demandé si, à la retraite, tu voudrais devenir un de ces visiteurs. Et je dis, merci Seigneur. Il fallait que je reconnaisse mon besoin devant toi, que toi, tu es mon tout, avant que tu puisses me dire la prochaine étape. Parce que j'étais en train de dire, mais que veux-tu que je fasse, Seigneur? Je n'avais pas envie de retourner aux États-Unis et jouer au golf avec tous les pasteurs retraités là-bas. Ça ne m'intéressait pas du tout. C'était juste, oh là là. Je voulais, et puis il y avait du travail en France. Je voulais rester là. Je voulais être au service de Dieu. Alors ça remonte à 11 ans maintenant que j'ai pris la retraite. Et comme Pierre-Yves a dit, je suis retraité, c'est mon statut officiel. Mais quel est son programme pour vous? Quel est son programme ou le service qu'il désire pour vous en ce début de 2014 et dans les mois qui viennent? Et quel est, ce qui est d'une grande importance, quelle est la participation, quel est le service auquel Dieu vous appelle dans l'église de Villefranche-sur-Saône? Alors, ayant posé cette question, je reconnais qu'il y a des empêchements à une réponse franche et nette à l'appel de Dieu. Et cela se comprend. Nous avons parfois du mal à dire oui à l'appel de Dieu, et ceci pour diverses raisons, et nous ne sommes pas seuls. Parmi les grands de la Bible, plusieurs avaient très honnêtement, ou pensaient avoir très honnêtement, des empêchements pour servir le Seigneur. Nous connaissons l'histoire de Moïse, mais je vais relire quelques versets d'Exode, chapitre 3, versets 7 à 14. Bon, Moïse est là avec ses brebis depuis 40 ans dans le désert. Il a fui l'Égypte à 40 ans, il a maintenant 80 ans, il est dans le désert avec ses moutons. Et il voit donc ce buisson ardent. Il est intrigué, et puis le Seigneur lui parle des flammes de ce buisson. L'Éternel dit, « J'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour délivrer mon peuple de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon pays, un pays vaste, dans un pays découlant de lait et de miel. » dans la région où habitent les Cananéens, les Hittites, etc., etc. Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'envoie vers le Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Et Moïse a dit, me voilà, je suis prêt à aller. Oh non, pas du tout. Première réponse de Moïse, qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites? Dieu dit, je suis avec toi. Et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie, etc. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les Israélites, bon, admettons, et je le dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il a dit, Yahvé. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux Israélites. Celui qui s'appelle Je suis, Yahvé, m'a envoyé vers vous. Bon, je rate là. Mais il est clair que Moïse n'est pas tout à fait disposé à répondre oui à l'appel clair de Dieu. Qui suis-je, premièrement? Qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites? Alors, traduction, Dixon. Je ne suis personne. Comment oserais-je? Je ne suis pas la bonne personne. Il y a une deuxième raison, excuse, empêchement. S'il me demande quel est son nom, que répondrai-je? Traduction, je ne sais pas grand-chose sur toi. Au fait, vous êtes-vous demandé ce que Moïse savait sur Dieu et comment il l'avait appris? Rappelez-vous qu'il avait été tiré des eaux par la princesse d'Égypte et donné à sa propre mère pour être sa nourrice pendant quoi? 3 ans? 4 ans à tout casser, hein? Il était avec les Israélites, avec sa maman. Et qu'est-ce qu'il a pu apprendre pendant ces années et à ce jeune âge? Et après, il était élevé pendant 36, 37 ans dans le palais du Pharaon. Bah, c'est à peu près certain qu'il n'a pas appris grand-chose sur Dieu quand il était dans ce palais. Qu'est-ce qu'il savait sur Dieu? Et pendant les 40 ans dans le désert? Je ne sais pas, mais la question est peut-être très légitime. Je ne sais pas grand-chose sur toi. Mais Dieu allait le guider pour ceux qui ne savaient pas de lui. Troisième objection de Moïse. Ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront pas. Traduction, les gens ne me prennent pas au sérieux. Est-ce que vous dites cela de vous-même parfois? Quatrième objection, je ne sais pas parler, je n'ai pas la parole facile. Autrement dit, je ne possède pas les dons nécessaires. Alors, il est toujours facile de se cacher derrière son manque de dons. Il y a aussi l'autre côté, il y a des gens qui pensent avoir le don, mais ne l'ont pas. Quand j'étais aux États-Unis, pasteur adjoint dans une église, il y avait un homme, on chantait le dimanche un solo. Il y avait un homme qui voulait toujours chanter un solo. Il n'avait pas le don de chanter, et surtout les gens n'avaient pas le don de l'écouter. Il fallait que je gère ça parce que j'étais responsable aussi de la musique à l'époque. On se cache derrière ce manque de don. Et puis, finalement, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Autrement dit, je ne veux pas le faire. Là, on arrive vraiment au noyau du problème. La vraie, véritable raison, celle qui est souvent la nôtre, je ne veux pas le faire. Faire la volonté de Dieu risque de nous déranger ou déranger nos propres projets. Si vous voulez parler avec quelqu'un qui était obstinément en train de suivre sa propre volonté parce qu'elle était meilleure que le Seigneur et elle savait que le Seigneur, si elle lui donnait sa vie au Seigneur, elle aurait une vie misérable. Si vous voulez parler avec cette personne et le résultat dans sa vie, adressez-vous à Joyce pendant le repas fraternel. Alors, elle a quelque chose à vous dire. Je ne vais pas dire son témoignage maintenant. Mais là, elle est à la place de Moïse. Envoie quelqu'un d'autre. Me voici, envoie quelqu'un d'autre. Voilà cinq réponses qui auraient pu empêcher Moïse de répondre oui à l'appel de Dieu. Et pourtant, Moïse est l'un des plus grands dans toute l'histoire d'Israël. Et s'il avait dit non, je suppose que Dieu aurait suscité quelqu'un d'autre, mais Moïse aurait raté une bénédiction formidable dans sa vie. On pourrait aussi parler de Gédéon. Les autres exemples seront beaucoup plus brefs. Quand Dieu a demandé à Gédéon d'aller délivrer le peuple des Madianites, Gédéon dit, « Mais je suis le plus petit de la plus pauvre famille de ma tribu. » Autrement dit, j'ai le complexe de l'infériorité. J'ai des problèmes psychologiques, Dieu. Je suis inférieur. Mais le fait est que souvent le Seigneur ne peut pas servir des grands de ceux qui sont imbus de leur propre importance. Pour servir Dieu, nous devons être convaincus de notre dépendance absolue de lui. Et parfois, je pense qu'une petite dose d'infériorité n'est pas trop mal, parce que ça nous pousse à compter sur Dieu. Et c'est très important. Élie. Ah, Élie, il avait fait des exploits pour Dieu, c'était formidable, il a emporté cette lutte contre les prophètes de Baal sur le mont Carmel, et il y avait les prophètes de Baal qui avaient été massacrés, et puis Jézabel a dit, je veux ta vie, je vais t'avoir. Il est allé dans le désert. Et qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, j'en ai marre. C'est pas dans la Bible, j'en ai marre, mais enfin, c'est ce que vous voulez dire. J'en ai assez de vivre, ôte-moi la vie. J'ai failli dans mon ministère. Vous savez, dans la dépression, ce qu'il avait, hein, on voit les choses tout à tort et à travers. J'ai failli dans mon ministère. Pas du tout. Je suis seul à te suivre. C'était pas vrai non plus. Ce n'est plus la peine. Dans 1 Roi 19, il dit, « Je suis découragé et déprimé, Seigneur. Je suis fatigué de te servir. » Ce sont ces paroles un peu en langage moderne. Aujourd'hui, nous appelons cela le burn-out. Vous connaissez ce mot? C'était un bon burn-out chez Moïse. Et vous savez ce que Dieu a fait? Ça c'est incroyable. Nous, chrétiens que nous sommes, nous prendrions la personne et nous commencerions à dire toutes les choses spirituelles que la personne devrait réapprendre peut-être. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il lui a donné à manger et il lui a donné du repos. Hein? Dieu, il n'est pas si bête que ça. Hein? Parce qu'il savait que tant qu'il était fatigué, vraiment fatigué, sur les rotules et il avait faim, pas la peine de lui parler. Joyce a appris ça. Elle m'aborde en général quand j'ai le ventre plein, parce qu'elle sait que ça ira mieux. Bon. Et Dieu, il est très... Bon, dire que Dieu est sage, c'est quand même un peu stupide. Mais c'est comme ça qu'il a fait. Et il a été rétabli. Jérémie, dans le premier chapitre, il est appelé par le Seigneur. « Ah, Seigneur éternel, je ne sais point parler que je suis un jeune garçon. » Je ne sais pas quel âge il avait à l'époque, mais il n'était pas vieux. Ce qu'il voulait dire, c'est « Je suis intimidé, je n'ai pas les dons nécessaires. » Encore, problème de dons. On se cache derrière, « J'ai pas les dons. » Le roi Saül, c'est un autre type d'exemple, c'est l'anti-exemple, si vous voulez. Parce que Saül a agi contrairement à la volonté de Dieu en sacrifiant, à un moment donné, ce qui était réservé aux prêtres, il était pressé, il a dit, je n'ai pas pu attendre le Seigneur. Autrement dit, Saul dit, je sais prendre les choses en main, je suis un homme capable, mais se croire suffisant, surtout quand on ne l'est pas, c'est de l'orgueil. C'est le contraire de Gédéon. Oh, je sais prendre les choses en main. Allons-y, je vais le faire. Il n'a pas écouté Dieu. Il n'a pas obéi à Dieu. Et puis nous connaissons Jonas. Jonas, il a dit, effectivement, je n'aime pas la mission que tu me confies. Ou pire, je n'aime pas les gens avec lesquels tu me demandes de servir. Je suis arrivé à ce point une fois dans ma vie, en 1982. Et le Seigneur, bon, je n'ai pas raconté l'histoire, mais le Seigneur m'a montré à quel point il était là pour me soutenir. Parce que j'étais près du burn-out à ce moment-là, et je ne voyais pas les choses très clairement. Et puis, sinon, on veut un exemple du Nouveau Testament, on peut prendre la parabole des talents, et le troisième serviteur qui avait enterré son talent, parce qu'il manquait de motivation. Les deux autres, ils ont travaillé avec leur talent, ils ont gagné quelque chose, lui, il l'a enterré. Bon, c'était un paresseux, il n'avait pas de motivation. Alors, résumons tous ces empêchements, ces obstacles à l'écoute de Dieu, je vais simplement les lister. Et je vous demande si vous vous trouvez devant l'un ou plusieurs de ces obstacles pour répondre à l'appel que Dieu vous adresse aujourd'hui. Se croire incapable ou inférieur. Manquer de connaissances sur Dieu ou sur sa parole. Alors, ça peut se régler, hein? Croire ne pas avoir les dons nécessaires. Pire, cacher derrière un supposé manque de dons. Manquer la volonté pour servir Dieu. Céder au découragement, voire à la dépression. Être fatigué dans le service de Dieu. Et ça peut arriver. Cela est arrivé à plusieurs d'entre nous, et moi compris. Mais ce n'est pas la fin de notre vie et de notre monde et de notre ministère. La crainte ou l'intimidation. Tout simplement, ne pas vouloir écouter Dieu ou savoir mieux que lui. La suffisance et l'orgueil, la crainte de ne pas aimer la mission que Dieu veut nous confier, ou de ne pas aimer les gens avec lesquels le Seigneur nous demande de servir, et puis le manque de motivation. On est parfois trop à l'aise pour se déranger, pour servir le Seigneur. On veut le confort. On ne veut pas être dérangé, on ne veut pas que la vie soit bouleversée. Tout simplement, je ne veux pas te servir, Seigneur. Attention, si je dis cela aujourd'hui, ce n'est pas pour vous culpabiliser. Parce que moi, je me suis trouvé dans bon nombre de ces situations pendant les 76 ans de ma vie. Et je ne veux pas vous charger de sentiments de culpabilité. Ces objections et ces empêchements sont souvent réels, on les ressent très fort et cela peut se comprendre. Mais finalement, tous ces obstacles peuvent trahir une mauvaise conception de Dieu. Des obstacles qui nous empêchent de poser honnêtement la question. Je suis en train de sauter quelques lignes. Un Dieu impuissant, une conception de Dieu qui n'est pas à la hauteur de ce que nous lisons dans la Bible. Un Dieu impuissant, qui n'est pas capable de nous aider à accomplir sa volonté. Ou dans certains cas, un Dieu presque sadique, qui veut nous faire souffrir en nous demandant de le servir, plutôt que de nous donner la plénitude. Moi, j'ai souffert dans le ministère de Dieu. Mais vous savez, c'est dans la souffrance que j'ai vraiment appris quelque chose sur Dieu. Et Dieu ne m'a jamais abandonné. Un Dieu sadique qui me laisserait me débrouiller seul, mais pas mon Dieu. Mon Dieu n'est pas sadique. Mon Dieu est là pour me soutenir, pour me porter par moments, quand je n'ai plus la force d'avancer. Mon Dieu m'aime et il ne me quitte jamais. Et ces obstacles sont parfois des empêchements pour recevoir l'appel de Dieu, des obstacles qui nous empêchent de poser honnêtement la question. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Si nous regardons bien, nous pouvons voir dans l'église de Villefranche-sur-Saône et même tout autour de nous des besoins. Y a-t-il un obstacle que Dieu veut enlever de votre vie pour vous permettre de dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Quel est le ministère auquel le Seigneur vous appelle aujourd'hui au sein de cette église à vous engager pleinement et fidèlement ici ou peut-être même ailleurs. Je vais rapidement, en conclusion, apporter quelques antidotes contre ces empêchements. Il y en a quatre. D'abord, comprendre que c'est le travail de Dieu et pas notre travail. Et j'ai dû lutter avec ça. J'avais la responsabilité de démarrer l'église au nord de Paris, dans la commune de Villers-le-Bel. Et je n'étais pas à la hauteur. Et j'ai dit, je ne peux pas faire. Et j'avais raison. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Regardez ce que Dieu dit à Moïse. Je délivrerai, mais pas toi. J'étendrai ma main, pas ta main. Je t'enseignerai. Je ferai sortir. Alors, ma tendance était de dire, moi, je ne peux pas. Moi, je. Et Dieu dit, non, 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 c'est moi, je, Dieu. Et quand j'ai réalisé ça, le Seigneur m'a beaucoup aidé dans le ministère pour lui. Moïse a appris cette leçon importante parce que quelques chapitres plus tard, quelques mois plus tard, tout au plus, qu'est-ce qu'il dit devant la mer Rouge? Quand il y a la mer Rouge devant eux, l'armée de Pharaon derrière et les falaises de chaque côté, ils étaient dans un piège. Regardez ce que Moïse a dit. Ce n'est pas le même Moïse que devant la buisson ardente. Soyez sans crainte, restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. L'Éternel combattra pour vous. Là, on est loin de la conversation devant le buisson ardent. À Jérémie a dit, voici, tu dis que tu ne peux pas parler. Je mets mes paroles dans ta bouche. Qui a fait ta bouche, il a dit. Qui a fait ta bouche? Je connais ta bouche très bien, parce que c'est moi qui l'ai faite. Et je mettrai mes paroles dedans. Comprendre que c'est sa force et non la nôtre, deuxième chose. C'est le travail de Dieu et non pas notre travail. Comprendre que c'est la force de Dieu et non pas la nôtre. Dieu nous équipe, nous donne les dons nécessaires. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui nous demanderait de faire quelque chose et ne nous donnerait pas les dons pour exécuter le travail? C'est encore le Dieu sadique que trop de chrétiens ont dans leur image de Dieu. À Moïse a dit, qu'y a-t-il dans ta main? Dieu nous équipe. Et il peut transformer ce que nous avons, ce que nous lui apportons, en un instrument pour le servir. À Gédéon, il a dit, va avec cette force que tu as, je serai avec toi. Donc, tu auras ma force. Alors, la force de Dieu, je vous dis, hein, ce n'est pas la moindre des choses. Va avec cette force que tu as, avec ma force. À Zorobabel, on n'a pas mentionné, c'est au retour de la captivité où il devait construire le temple qui était en ruine. Il a dit, ce n'est ni par la puissance ni pour la force, sous-entendu humaine, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et j'ai dû apprendre cette leçon. Jamais, mais jamais Dieu ne demandera de faire une œuvre pour lui sans nous équiper pour le faire, quitte même à nous former pour le faire. Et puis, en fin de compte, si on réalise que non, Dieu n'a pas donné le don, en fin de compte, il vaut mieux dire, mais Seigneur, que veux-tu que je fasse? Parce que peut-être on a mal compris la volonté de Dieu. Troisième chose, une attitude de disponibilité devant Dieu. Parce que Dieu s'intéresse à nos attitudes. Il s'intéresse à nos attitudes plus qu'à nos paroles et à nos gestes. Qu'est-ce qui est à la base de tout cela? Et j'aime beaucoup la réponse d'Ésaïe quand Dieu l'a appelé. Ésaïe a vu des raisons pour ne pas... Il s'est vu tellement sali, tellement pécheur, tellement corrompu. Et Dieu lui a dit, « Je te purifie la bouche. » Et Ésaïe a dit, « Me voici, envoie-moi. » Ce sont parmi les paroles les plus douces que le Seigneur puisse entendre. « Me voici, en moi, moi. Quatrième chose, il y a le renouvellement de l'appel, de la vision du service pour le Seigneur. Après avoir relevé Élie de sa dépression et lui avoir donné à manger et du repos aussi, il s'est révélé à Élie. Et Élie a compris de nouveau qui était Dieu. Et Dieu a dit, écoute, j'ai encore du travail pour toi. Dans ce même chapitre où il dit, ôte-moi la vie, Dieu dit, j'ai du travail pour toi. Tu vas rendre Élisée pour te succéder, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Et c'est le renouvellement de la vision, de l'appel que Dieu nous donne, qui nous aide, qui nous remet sur les rails. À Moïse, il a dit, je marcherai moi-même avec toi et je vous donnerai du repos. C'est après l'histoire du veau d'or, quand Moïse a dit, mais c'est pas possible, je ne peux pas mener ce peuple, mais c'est un peuple rebelle, c'est un peuple qui va dans tous les sens. Et Dieu dit, attention, c'est moi-même qui marcherai avec toi et je te donnerai du repos. Il ne faut pas se culpabiliser, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a parfois de bonnes raisons pour ne pas répondre à telle ou telle sollicitation. Et notre appel devrait être confirmé par nos frères et sœurs. Et ça, c'est très important. Ce n'est pas la peine d'aller aller faire quelque chose simplement parce que je dis, bon, je vais faire ça. Venez voir les responsables de l'Église pour savoir ce qu'ils en pensent. C'est très important d'avoir cette collaboration, cette vérification par des hommes et des femmes qui sont donc expérimentés et mûrs dans la foi. Il y a parfois de bonnes raisons pour changer de cap, de changer de ministère, de changer de service, simplement parce qu'on commence ici, à un moment donné, on ne va pas passer 50 ans à faire la même chose, pas forcément. Le Seigneur a changé mon orientation plusieurs fois, mais toujours dans une espèce de ministère pour lui. Et ça allait de continuer, il ne m'a pas dit d'arrêter encore. L'important, c'est d'être prêt à faire ce que le Seigneur veut que nous fassions à un moment donné. L'important, c'est d'être dans sa volonté. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse pour te servir dans l'église de Villefranche-sur-Saône? Pour être fidèle et fiable dans mon soutien de mon église? Que Dieu vous donne, qu'il me donne, qui donne à chacun dans cette Église la sagesse pour faire le bon choix et qui vous donne la fidélité pour le mettre en pratique. Osons dire avec sincérité, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Amen.
Seigneur, que chacun de nous puisse, ainsi venir.